moi c'est André de Mbujimayi, au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs. Dans son dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme salue les avancées dans le domaine des droits de l'homme avec notamment la promulgation d'une loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme, la condamnation de la plupart des agents de l'État tels que des éléments de l'armée et de la police coupables des violations des droits de l'homme, notamment des violences sexuelles. Par ailleurs, le rapport note une détérioration de la situation des droits de l'homme, particulièrement à l'est du pays. Que proposez-vous pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC? Nous en parlons dans ce studio avec M. Scott Campbell, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC. J.R. Lungembo, Nadine Koula sont à la réalisation de cette émission mise en nom de par Dieudonné Nyangassa, présentée par Pierrot Elamegi sous la supervision de Nicolas Nkaka Fidel. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elamegi.
Nous dégageons ensemble avec vous les pistes des solutions pour améliorer la situation des droits de l'homme en RDC, partant du dernier rapport sur la situation des droits de l'homme en RDC. Nous en parlons avec vous dans votre milieu. Qu'est-ce qui doit être fait pour garder les caps et améliorer la situation des droits de l'homme? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais vous pouvez également déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons pour vous dans ce studio Monsieur Scott Campbell, qui est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ici en RDC. Monsieur Campbell, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'aller plus loin, quand on lit le résumé, dans le résumé du rapport, on reprend cette phrase pour dire que la Haute Commissaire évalue les progrès réalisés par la RDC dans la mise en œuvre de recommandations de ces dernières années. En bref, quelles ont été ces recommandations bien avant de voir comment la situation a évolué sur terrain?
Bon, nous avons noté plusieurs aspects positifs en ce qui concerne les efforts du gouvernement. Et je pense que c'est très important de les reconnaître. Il est vrai que le pays, le gouvernement, le peuple sont devant les défis énormes. Et surtout en ce qui concerne la situation des droits de l'homme, il y a des défis énormes. Bon, de progrès réalisés, comme le commissaire l'a noté dans ce rapport, il y a une loi importante qui crée une commission nationale des droits de l'homme qui a été promulguée. Il y a plusieurs lois aussi, plusieurs réformes législatives qui sont quand même innovatrices et méritent d'être soulignées. Les lois relatives à la carrière des policiers, des membres de PNC, sur la FARDC aussi, il y a des nouvelles lois relatives. Mais malgré cela, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis qui restent, surtout en ce qui concerne, bon, aujourd'hui, la mise en œuvre de la loi qui crée une commission nationale des droits de l'homme. C'est un grand pas en avant que ce mécanisme existe sur papier. Maintenant, c'est la mise en œuvre qui compte. Il y a une loi très importante qui demeure non promulguée, non traitée par le Parlement. C'est une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par la situation et des journalistes comme vous et des défenseurs des droits de l'homme à travers le pays.
Et quand on regarde la période pour l'élaboration de ce rapport, on est parti du mois de 2011 à 2013. Quelles sont les circonstances particulières qui ont concouru à l'élaboration de ce rapport?
Non, excellente question. D'abord, c'est le troisième rapport que le commissaire présente, le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est le numéro un du système des Nations Unies en ce qui concerne les droits de l'homme. Et c'est le troisième rapport qu'elle présente devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est le mécanisme international prioritaire pour traiter des questions de droits de l'homme. Donc, c'est le Conseil des droits de l'homme, qui est basé à Genève, qui a demandé à l'eau-commissaire de faire un rapport et présenter ce rapport à la session qui est actuellement en cours au niveau de Genève. Mm-hmm. Et elle est demandée de couvrir la période à partir de son dernier rapport. Ici, c'est son troisième rapport. Donc, c'est un rapport qui est global, qui couvre beaucoup d'aspects, qui n'entre pas dans trop de détails, car c'est un rapport global qui couvre une période de à peu près 19 mois. Donc voilà un peu c'est à la requête de ce conseil que le commissaire présente encore une fois un rapport sur la situation en RDC et sur les activités de son bureau.
Mmh. Mais nous sommes au troisième rapport. Il y a eu le premier, le deuxième et le troisième. Quand vous partez du premier jusqu'au troisième, pensez-vous que la situation évolue dans le bon sens, que toutes les recommandations après chaque rapport sont prises en compte au niveau du gouvernement de Kinshasa?
Bon, le bilan est mixte. Encore une fois, ce qui est important à noter, c'est l'approche du gouvernement que nous estimons est beaucoup plus positive par rapport aux anciens gouvernements. Il y a des efforts très concrets qui sont faits. Nous venons de faire allusion à plusieurs lois, plusieurs réformes législatives, mais la liste même des différentes lois est plus longue. Il y a beaucoup d'activités au niveau du Parlement. Il y a la CNI, la nouvelle loi aussi pour mettre en place le CNI. Donc il y a beaucoup de progrès, il y a aussi des progrès concrets sur le terrain. Lorsque nous voyons les poursuites judiciaires et les condamnations des auteurs des violations, par exemple pour la première fois dans l'histoire du Congo et donc pendant cette période couverte par le rapport de l'eau-commissaire, nous avons vu des condamnations jusqu'aux 20 ans de plusieurs membres de l'armée congolaise et de la PNC pour la crime de torture. Alors, ce n'est que depuis 2 ans que la torture est définie dans le code pénal congolais comme un crime et qui est sanctionnable. Et donc, effectivement, la justice congolaise a pris ça au très sérieux et déjà a condamné plusieurs membres des forces armées, des policiers, des agents, un agent de renseignement. Et donc, ça, je pensais à souligner et vraiment à encourager. Mmh. En même temps, il y a trop de... Le rapport note un niveau de violence à l'est du pays, un niveau de violation de droits de l'homme, de droits internationaux humanitaires, surtout à l'est du pays, qui est tout à fait inacceptable. Et nous avons vu plus que jamais des violations, au moins plus que par rapport au rapport précédent, un niveau de violence contre la population civile à l'est. Et ça, c'est à déplorer. Et nous avons noté la recrudescence des groupes armés, surtout depuis le mois de mai 2012, avec l'arrivée du M23. Il y a eu un effet domino avec le redéploiement de la FARDC pour faire face au M23. On a vu un vide sécuritaire du nord de Katanga jusqu'en Ituri. Et dans ce vide, bien sûr, les différents groupes armés, les Mai Mai, FDLR, ADF, etc., ils ont rempli quelque part ce vide sécuritaire en essayant de conquérir un territoire.
Merci.
Et donc, avec cela, ils ont utilisé une force brutale contre la population civile comme on n'a jamais vu.
Merci. On va suivre aussi les auditeurs, les contributions dans cette émission. Je rappelle encore le numéro 0-81-890-49-69, 0-81-890-43-39. Vous pouvez aussi intervenir pour nous donner votre point de vue, votre contribution sur l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC. Sylvain, vous nous appelez des Bounia en province orientale. Vous gardez la ligne, vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Le débat est ouvert.
Parole aux auditeurs.
Sylvain, vous êtes à Bounia, en province orientale. Bonjour. Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Et on vous écoute, Sylvain. Vous avez suivi l'introduction avec notre invité et votre contribution pour arriver à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en RDC.
Oui, je voudrais d'abord saluer notre invité. Je suis particulièrement touché de ce qu'il dit. Ça veut dire que lorsque il compare un peu les anciens gouvernements qui se sont succédés par rapport à l'actuel, le commun des mortels peut noter une petite différence, puisqu'en fait, lorsque nous étions dans le régime dictatorial, c'était une autre chose. Et aujourd'hui, comme tout le monde reconnaît la RDC comme un pays qui tend vers la démocratie, on peut être tenté de dire que certaines questions des droits de l'homme sont en train d'être résolues. Mais moi, je pense que de toutes les trois grandes générations des droits de l'homme, ça veut dire les droits les plus élémentaires, les droits tels que les droits au logement, les droits à l'alimentation, les droits à l'éducation, les droits aux soins de santé. Tout ça, je pense que ce sont là les éléments qui peuvent nous servir comme piliers pour juger l'état des droits de l'homme dans notre pays. Or, la radio Capi, si vous avez choisi de parler de ce sujet, il faut poser la question à tous les Congolais. Combien de gens ont accès à l'eau potable? Combien de gens ont accès aux soins de santé, même primaires? Combien de gens ont accès aux transports communs? Combien de gens ont droit à un logement, même les personnes de troisième âge? Alors, rassemblant toutes ces questions-là, moi je suis de ceux qui pensent que la RDC doit fournir de grands efforts pour que désormais la question des droits de l'homme soit résolue. Puisqu'il ne faut pas plonger dans des définitions idéologiques de ces droits de l'homme. Moi, je crois qu'il faut être pragmatique, étant donné que même ces droits de l'homme ou les développements, puisque parler des droits de l'homme, parler de ces durs développements. Lorsque nous sommes dans une définition ou bien dans une explication idéologique, on peut sembler parler de grandes questions, mais moi, je ramène mes analyses au plus bas niveau, au niveau de la prise en charge élémentaire du peuple congolais. Est-ce que nous avons une classe moyenne? Je dis non. Aujourd'hui, ce matin, combien de Congolais ont mangé? Ils ont pris du thé. Maintenant, à 12 heures, qui vont manger? Et le soir, qui vont manger? Maintenant, ceux qui sont malades, dans un quartier donné, même à Kinshasa ou à Madi ou à Bounia, qui peuvent aller à l'hôpital? Tout ça. Donc, je pense que le gouvernement congolais a de l'effort à faire, et cela doit partir de la bonne définition et la gouvernance politique de ce pays qui manque malheureusement, puisqu'il me semble que depuis que l'actuel président est à tête, le budget congolais n'a jamais satisfait aux vrais problèmes des Congolais. Et vous savez bien que le pays est à guerre, mais le budget n'arrive même pas à couvrir certaines charges sociales, puisque lorsque l'on considère un État, il faut considérer l'État dans la matière de la couverture de ses charges publiques. Mais est-ce que ces charges publiques sont couvertes? Je pense que la réponse appartient aux Congolais. J'interviens, je ne vais pas donner la réponse. Mais tout ce que j'ai constaté, c'est que la vision de la gouvernance politique actuelle est loin de remplir les grandes aspirations de la population congolaise.
Merci beaucoup, Sylvain. On vous a suivi, c'est important ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut ramener le débat au niveau des droits les plus élémentaires, les droits du Congolais au logement, à l'éducation, à la santé, aux soins, à la nourriture, voilà, comme la Constitution le stipule. Vous souhaitez que les gouvernements puissent fournir beaucoup d'efforts dans la gouvernance pour amener d'abord, arriver à satisfaire le besoin de Congolais à ces niveaux-là. Comme ça, ça peut permettre aussi de remonter un peu plus loin. Merci beaucoup. Sylvain. Oui, Sylvain, parce qu'il y a beaucoup de gens sur les standards, vous savez, les débats sur les droits de l'homme intéressent beaucoup de personnes, hein, mais permettez quand même qu'on écoute d'autres auditeurs, parce qu'ils sont très nombreux, mais du moins, il faut qu'il y ait beaucoup d'efforts sur le plan de la gouvernance politique pour permettre aux Congolais d'avoir d'abord accès aux droits les plus élémentaires, comme ça, ça peut aller ainsi jusqu'à d'autres droits, c'est ça votre souci, merci. Nous retournons ici à Kinshasa, Gaston, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, merci.
Vous avez suivi notre ami de Bounia, dit au-delà de droit à l'information, d'autres droits, par exemple les manifestations politiques, au-delà de tout, il faut que le gouvernement fournisse beaucoup d'efforts pour commencer avec les droits les plus élémentaires. Et nous dégageons ensemble les pistes des solutions pour y arriver. Qu'est-ce qui doit être fait, Gaston?
Merci une fois de plus. Je pense que parce que les rapports a été orienté plus vers l'aspect pénal. Je voulais, moi, ici, aborder le sujet dans ce sens-là pour dire que il y a un problème qui concerne, parce que les mécanismes de protection et de promotion de ces droits-là dont vous faites allusion, je vous dirais que c'est inexistant sur le plan national, sur le plan mondial, vous avez constaté, y a la CPI qui est là, qui est censée poursuivre les grands criminels. Mais vous allez constater combien de personnes sont arrêtées là-bas. Il y a tant de candidats valables qui devraient passer devant cette cour, mais qui jusque-là sillonnent librement. Et puis les victimes n'ont pas jusque-là trouvé la réparation. Et notre État, je pense, est parti à ce statut-là. Et vous allez constater que sur le plan national, il a été aussi dit qu'on devrait mettre les mécanismes, actualiser les mécanismes de protection. C'est sur base de ça que je veux dire, étant parti au statut de Rome, on devrait normalement adopter, disons, sur les gens, au Parlement là-bas, une loi pour appliquer les statuts-là sur le plan national. Et vous allez constater que jusque-là, il y a des incompatibilités, disons des incohérences. Nous sommes partis au statut de Rome au moment où nous appliquons des amnisties et puis les grâces qui sont en quelque sorte interdites dans les statuts. Donc appliquer les statuts sur le plan national, à mon avis, serait aussi une manière de poursuivre. Vous savez que les criminels sur le plan national, jusque-là, ils sont libres, ils sillonnent et puis les victimes. Bon, dans ce monde-là, comme ça, où tout le monde est conscient que non, la justice n'a pas encore fonctionné comme il faut, comment pouvez-vous dire qu'il y a des améliorations? Ça, c'est un organisme qui a fait son rapport et qui a fait son rapport, mais moi, je pense qu'il faut que les statuts de Rome soient révisés. Et puis, cette juridiction complémentaire qui, en quelque sorte, laisse, une fois de plus, la compétence aux États qui jadis n'aimait pas poursuivre leurs propres criminels, mais je dis demeure encore sur cet élan-là, nous ne voyons pas l'importance de cette cour-là. La cour pénale doit faire de telle sorte que tous les criminels soient inquiétés. Si les criminels sont libres, et puis elle est là, bien qu'universelle, bien qu'ayant des compétences permanentes, ça n'aura pas d'effet sur le plan de l'amélioration. Disons, sur les violations massives des droits.
Merci,
maître Gaston. Je vais demander, à mon avis, pardon, à notre État.
Allez-y rapidement, oui.
Oui. Si, ils ont vraiment besoin de sanctionner tout ce monde-là qui viole, ceux qui commettent des crimes graves ayant relevant la compétence de la Cour, de poursuivre ces gens-là, parce qu'ils sont nombreux, tout ce monde-là qui travaillent là-bas à l'Est, là, ce sont des viols. Et puis l'agression. Vous savez que jusque-là, ce pays ne poursuit pas encore les crimes d'agression. Bien que la définition est là, je pense jusque-là, les Rwandais là que vous faites allusion n'est pas parti au statut de Rome. Lorsque, même s'il est établi aujourd'hui par le Conseil des secteurs, il y a l'acte d'agression, et que la Cour n'aura pas la possibilité de poursuivre les particuliers, qui devrait être donc ces Rwandais là, moi je pense que c'est les Rwandais, si il a fait criminel sur notre territoire qui viole les droits internationaux, il doit aussi respecter, les Rwandais doivent respecter les parce qu'ils sont pas passables devant la CPI. Nous on n'a pas la possibilité de poursuivre les criminels rwandais sur notre territoire. Et ils doivent retirer les s'ils sont vraiment libres, parce qu'il me semble que non, eux aussi, ils ont peur. Mais s'ils se croient vraiment être protégés, à quoi faire de mener des troubles sur les territoires d'un État voisin? Moi, je vois pas d'importance. Merci.
Merci beaucoup, maître Gaston. On peut retenir, hein, parce que vous avez expliqué beaucoup de choses. Votre souci d'abord, c'est qu'il faudrait qu'on ait une loi dans notre pays sur l'application du statut de la CPI, le statut de Rome, sur le plan national, parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de gens qui commettent les crimes mais qui ne vont pas à la CPI et qui d'ailleurs ne sont pas poursuivis au pays. Il y a des contradictions avec des amnisties qui sont signées. Vous souhaitez qu'on puisse poursuivre tous les criminels, que ce soit sur le plan national ou bien au niveau de la CPI, et vous souhaiteriez d'ailleurs qu'on puisse aussi poursuivre d'autres personnes en termes d'État qui agressent un autre État. Et d'ailleurs, dans ce que vous avez dit, vous savez que la RDC a demandé au Rwanda l'extradition de certains responsables du M23 qui sont réfugiés au Rwanda. Il se pose un problème aussi, vous rappellerez, du camp Laurent Kunda qui était au Rwanda. Le gouvernement a dû engager des discussions avec le Rwanda pour son extradition à Kinshasa pour qu'il soit poursuivi, et il n'y a pas eu des suites. Et alors là, il se pose un problème de pouvoir poursuivre les criminels qui vont se réfugier réfugiés dans ces pays, vous souhaitez qu'on puisse que la CPI soit contraignante pour ces pays-là. Merci beaucoup, Gaston. Vous avez expliqué beaucoup de choses, on vous a suivi. Nous avons Madame Joséphine. Joséphine nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Madame, vous nous appelez de quel État aux États-Unis?
Indiana.
Vous êtes à Indiana et nous dégageons ensemble les pistes et les solutions pour arriver à améliorer la situation des droits de l'homme en RDC. Votre contribution?
Ma contribution, ça sera sur le plan de social, hein? Mm-hmm. Parce que apparemment tout le monde s'attaque seulement à la guerre. On sait que la guerre est entretenue par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et tout et tout. Moi, je voulais parler du côté du niveau social. La fois passée, j'ai intervenu, c'était le problème de salaire des enseignants, par exemple. Il y a un enseignant l'auditeur qui avait dit que pour par exemple quand un enseignant termine son travail à 15h ou 17h, il ne peut pas rentrer à la maison pour faire les devoirs avec ses enfants. Il doit aller chercher, c'est pour ça que le papa rentre le soir et tout et tout. Moi, je voulais intervenir pour dire que l'État doit prendre ses responsabilités. Par exemple, pour que quelqu'un sache que j'ai le droit au salaire, il faut qu'on lui dise que le salaire, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Tu verras qu'un enseignant termine son travail à 15h, au lieu de rentrer à la maison, il doit encore aller en ville pour chercher, parce que le Congolais mange journalièrement. Ça, c'est les droits humains. Le salaire, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Moi, je voulais qu'on réhabilite, que l'État congolais prend son devoir de réhabiliter la population. De réhabiliter, parce que pour punir quelqu'un, il faut que la personne sache que j'ai mal fait, j'ai fait une erreur à tel endroit. Parce que la population congolaise ne connaît pas beaucoup de choses. Alors l'État est en train de punir les gens qui n'a pas été, la personne qui n'a pas été informée de son erreur à l'avance. Mmh. Au niveau de la famille, le papa qui travaille, il a droit à son salaire, l'État doit lui donner son salaire. C'est à partir de la famille que tout commence. Et tout le monde doit avoir son droit et son devoir. À partir de là, on peut punir et respecter les droits humanitaires. L'État doit prendre sa place pour réagir la population. Par exemple, vous, à la radio, l'État peut dire... Vous payez pour dire que réhabiliter la population, par exemple le dimanche, pour le problème de transport, réhabiliter la population pour le problème de salaire, et le salaire doit être équitable. S'il y a le problème au niveau des finances d'un pays, il ne faut pas qu'on voit les autres qui sont payés 6 000 $, les autres 50 $. Et le problème commence par là. C'est à ce moment-là que les gens n'arrivent plus à respecter les lois. Parce qu'au début, l'État ne respecte pas les lois de le petit peuple, la population.
Merci beaucoup, madame. Vous avez rejoint notre ami Sylvain Debounia en début d'émission qui a pensé que le problème aujourd'hui aussi, c'est d'abord que l'État arrive à respecter les droits élémentaires de la population. Vous avez évoqué le salaire décent, équitable, hein, que les conditions de vie de la population soient améliorées et comme ça on pourra éduquer les gens à savoir comment ils ne peuvent pas violer les lois. Mais s'il y a cette disparité entre la population, ceux qui gagnent plus et les pauvres qui continuent à s'appauvrir, ce sont ces droits-là qui sont bafoués. Mmh. Et dans ces conditions, c'est difficile de pouvoir les éduquer, leur dire de respecter les droits des autres, parce qu'avec des frustrations, les gens peuvent arriver aussi à violer les droits des autres personnes. Merci beaucoup, madame, de ce point de vue. Nous retournons ici au pays avant d'écouter notre invité. Nous avons Michel qui est à Matadi, dans la province de Bas-Congo. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, Bézégir.
Merci, Pierrot.
Merci pour les sujets du jour. J'allais aborder cette question dans la même vision que la dame qui vient d'appeler des États-Unis.
Oui.
Moi, je crois que les droits de l'homme, nous ne devons pas aller les chercher seulement à l'est de la République. Ce sont des faits que nous vivons. Et en suivant l'invité du jour, ce n'est pas seulement là où il y a la guerre que nous devons aller chercher des droits. Nous vivons des choses dans la République et c'est dans toute l'étendue de la République du Congo que nous devons chercher des droits. Je prends l'exemple. Vous savez que les manger, c'est un droit à un homme. Aujourd'hui, posez-vous la question si les Congolais mangent bien. Les Congolais ne mangent pas bien. En Angola, si vous... Moi, j'ai fait un petit tour en Angola. Vous allez voir que les supermarchés d'une de ces noms sont créés pour tout le monde. Chacun a droit d'entrer dans un supermarché, il achète les choses qu'il en a besoin. Mais ici, dans notre pays, ces maisons-là qu'on appelle supermarché, c'est pour des richards. C'est pour des richards. Vous savez, même les prisonniers ont des droits. Il faut prendre des faits qui sont visibles, qui sont palpables. L'autre fois, il y a deux ou trois jours, j'ai suivi les pasteurs Mukuna de l'ASECA à la télévision. Il donnait une information. Quelle est cette information qu'il donnait? Il dit non. Je suis allé voir les pasteurs coutumiers dans un état critique. Et les pasteurs a eu des larmes aux yeux. Les droits, c'est pour tout le monde. Tous, nous sommes égaux devant la loi. Les droits, c'est comme une ligne rouge que personne ne peut traverser. Aujourd'hui, si nous reculons, c'est parce que les droits, on dirait, c'est une famille. C'est pour quelques-uns. L'homme a droit à l'éducation. Voyez-vous quel genre d'éducation que les Congolais ont aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous n'avez pas l'argent, vous ne passez pas des classes. Et passez le ministre de l'éducation dans vos antennes, il vous dira quoi? Non, l'éducation marche mieux. Mais nous qui faisons cela, nous voyons que l'éducation est en train de périr, de connaître un chemin détourné. Moi, je crois qu'il faut aller dans cet angle. Lorsque nous voulons parler des droits, aujourd'hui, tout ce que nous pensons, nous voyons que l'Est. Et nous oublions les autres parties. Moi, je crois qu'il faut parler dans l'ensemble. Tout celui qui a commis un acte, d'ailleurs, lorsque vous avez suivi, il y a jadis, les discours du chef de l'État, il en a parlé, qu'il faut maintenant mettre la tolérance zéro. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qu'il y a des détournements. Mais dites-moi, est-ce que vous avez déjà, même dans notre Assemblée nationale, vous avez déjà appris qu'il y a un ministre qui a été bougé parce qu'il a détruit, il a pris l'argent de l'État? Non, ça ne se passe pas. Mais où est-ce que vous allez chercher des droits? Il n'y a pas d'amélioration. Il faut améliorer. Parce que tous, nous avons droit à la vie, tous, nous avons droit à l'éducation, tous, nous avons droit à une bonne alimentation, nous avons le droit de nous vêtir. Aujourd'hui, si le Congo vit, c'est parce que nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui sont à l'Est, c'est à eux que nous demandons de l'argent pour les études de nos petits frères. Je ne sais pas. Parce que, bon, l'autre fois, je suis passé dans votre émission, vous avez dit, parfois, Michel, vous êtes passionné. Non, je ne suis pas passionné. Ce que je dis, ce sont des choses qui sont vraies et que tous les Congolais le savent aussi. Merci.
Merci beaucoup, Michel. En fait, quand des fois on évoque la passion, cela veut dire que vous savez qu'il y a des sujets effectivement qui font qu'on parle avec son cœur. On sait que la situation, on a besoin d'améliorer. C'est des fois peut-être en évoquant cela qu'on parle de la passion. Maître Macha, que vous allez garder la ligne, mais vous souhaitez qu'on ne puisse pas se focaliser seulement sur les droits en ce qui concerne la guerre, la situation d'insécurité, mais qu'on regarde les droits de l'homme dans la globalité et à partir des droits élémentaires pour rejoindre les autres amis. Que ce soit les droits des prisonniers, les droits à l'éducation, les droits aux besoins sociaux, des bases que l'homme doit satisfaire, il faut fournir beaucoup d'efforts. 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct, ou bien 081-890-43-39.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Scott Campbell, vous avez suivi nos auditeurs. Hein. En bref, ils se dégagent de leurs interventions. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Les uns pensent que le rapport se concentre plus sur la situation qui touche au droit, en ce qui concerne la politique, en ce qui concerne la l'insécurité et reste. Mais ils souhaiteraient aussi que les rapports soient souvent élargis hein, par rapport au droit dans leur ensemble. Hein. C'est presque ça l'inquiétude. Mais il y a aussi cette inquiétude par rapport à l'impunité, les difficultés à poursuivre les auteurs de crimes, ceux qui commettent des crimes qui vont peut-être se cacher ailleurs. Voilà autant d'inquiétudes. Mais au niveau du bureau, au niveau des Nations Unies, par rapport à ce qui a été dit, quelles sont les mesures qu'il faut pour accompagner cela?
Non, tout à fait. Je pense que les auditeurs au niveau de Matadi et Bounia et celles aux États-Unis ont tout à fait raison en soulevant cet aspect des droits socio-économiques et qui effectivement est un point essentiel qui est inclus dans le rapport de l'haut-commissaire aux droits de l'homme qui vient d'être présenté dans son chapitre G. Je pense que comme évoqué par M. Sylvain Bounia, lorsque un Congolais ou une Congolaise se lève le matin, c'est quel droit qui le frappe? C'est quelle question qui le frappe le plus? À moi, c'est le droit à l'alimentation, c'est le droit à l'eau potable, l'accès aux soins de santé. Donc, juste pour souligner le fait que ce sont les questions fondamentales et qui sont énuméré dans le rapport de l'haut-commissaire et qui reconnaît également que toutes ces questions doivent être traitées dans son ensemble. Les droits civils et politiques, bien sûr, mais encore une fois, qu'est-ce qui cause le taux de mortalité, le niveau de décès en RDC aujourd'hui? Est-ce que c'est la violence à l'Est, les situations de conflits armés, ou est-ce que c'est le droit aux soins de santé qui est bafoué? Est-ce que c'est le droit à l'eau potable qui tue? Et à mon avis, ce sont ce genre, et quelque part le droit à l'éducation aussi. Je pense que finalement, ce sont les droits socio-économiques qui ont plus d'impact sur la population congolaise, bien que la situation à l'Est, elle est dramatique. Elle est dynamique, elle change, donc ça attire l'attention. C'est normal aussi. Mais en même temps, je pense qu'il faut souligner l'importance que le gouvernement fasse attention à ces droits socio-économiques, et je note bien la responsabilité de nos parlementaires qui sont juste sur le point d'entrer dans une nouvelle session qui va s'agir entre autres des questions budgétaires, et je pense que ces parlementaires doivent vraiment écouter la population en ce qui concerne leurs préoccupations. Donc les soucis qui étaient soulevés par Joséphine et Michel, les soucis des conditions sociales, et d'une manière très concrète, assurer qu'il y a des crédits budgétaires accordés à la santé, à l'éducation, aux services sociaux. Ça reflète leur responsabilité en tant qu'acteurs étatiques vis-à-vis leur population, et c'est à travers cela, et lié avec une bonne gestion, une bonne gouvernance, qu'on puisse assurer ces droits socio-économiques. La bonne gouvernance, comme était soulevée par aussi Sylvain Debounia, est fondamentale, parce que même s'il y a un budget adéquat accordé, qui aujourd'hui n'est pas encore le cas, il faut bien étudier le budget national, et jusque-là, les pourcentages alloués aux soins sociaux, à la santé, à l'éducation, sont toujours trop bas. Et effectivement, je pense qu'il y a une responsabilité là d'assurer que ces crédits budgétaires soient appropriés, mais aussi que la gouvernance soit améliorée pour assurer que ces fonds, une fois alloués, sont effectivement qu'ils arrivent sur le terrain pour améliorer les conditions concrètes de la population.
Mais il y a notre ami Maître Gaston de Kinshasa qui est revenu par rapport à la poursuite des criminels. Il dit, aussi longtemps que les criminels, les poursuites ne sont pas il n'y a pas une relation concrète entre les statuts des Roms et son application sur le plan national, il souhaiterait qu'on ait cette loi-là qui permette que les criminels soient poursuivis vit de la même manière au pays, ça pose un problème. Mais il se pose aussi un problème avec tous ces conflits à l'Est, quand ceux qui sont accusés des crimes, par exemple, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et quand ils pourront traverser la frontière pour se retrouver, par exemple, au Rwanda, il va se poser un problème de leur poursuite. Et là, ce sont les victimes qui vont rester longtemps en train d'attendre les réparations. Et au niveau du bureau, au niveau de Nations Unies, comment le travail est fait pour la poursuite des gens qui traversent la frontière, qui ne sont plus sur le territoire congolais alors qu'ils sont accusés des crimes?
Bon, il y a deux choses peut-être à souligner. Une chose, c'est comme il était évoqué par Maître Gaston, les autres, il y a besoin de renforcer le cadre législatif avec l'adoption des nouvelles lois. Et il a souligné le besoin d'adopter une loi sur l'application du statut de Rome pour qu'effectivement il y ait une mise en œuvre du statut sur le plan national. Et en même temps d'établir, je pense qu'il faut une autre loi pour établir les chambres spécialisées pour augmenter la capacité sur le plan national de traiter des crimes graves, des crimes internationaux. Donc principalement les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, etc. Il va de soi qu'il faut un renforcement du système national lorsqu'on voit. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait une introduction de la loi internationale, si vous voulez, au sein des juridictions congolaises. Mais il faudrait un renforcement de la capacité de la justice congolaise, la justice militaire, la justice civile qui souffre aujourd'hui en termes de leur capacité d'appliquer la loi, de faire des poursuites contre les auteurs sur le territoire national, de faire avoir lieu des audiences dans les lieux, les endroits reculés où la justice est très difficilement atteinte. Et donc, il faut voir les conditions de nos magistrats, des procureurs, des greffiers, et du côté civil et militaire. Mais la justice travaille dans quelles conditions? Donc il faudrait aussi voir le budget accordé à la justice, je pense, pour une amélioration. Lorsqu'il s'agit de ceux qui traversent la frontière ou ceux qui commettent les crimes graves, il faut être très clair là-dessus. Il y a, selon la loi internationale et la loi nationale, il n'y a aucune amnistie qu'on puisse accorder à quelqu'un qui a commis des crimes graves, des crimes internationaux. Ça, c'est inacceptable. Les Nations Unies ont des principes qui sont très clairs là-dessus. On n'est pas contre des amnisties, on n'est pas contre l'intégration de certains membres des groupes armés qui sont au niveau bas des soldats. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui est responsable des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, il n'y a aucun espace pour accorder une amnistie. Alors, tout pays, et surtout les pays qui viennent de signer l'accord cadre de Addis Abeba, ils ont l'engagement de ne pas protéger aussi ceux qui sont sujets d'un mandat d'arrêt ou ceux qui sont en train de fuir la justice. Donc, tout État signataire aussi de cet accord doit répondre à leurs obligations et coopérer sur le plan sous-régional avec la justice.
Voilà, merci. Nous avons Clément qui est en Boujmaï, Maître Machaka Albumbashi et Mathieu qui est à Kananga. Mais on a aussi des messages. Il y a les auditeurs qui ont réagi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Elie Kuiravusa dit ceci: c'est contradictoire de dire qu'il y a des avancées et de signaler aussi qu'il y a détérioration de la situation des droits de l'homme, particulièrement à l'Est. Si un membre du corps souffre, c'est tous les corps qui souffrent. Le gouvernement doit consentir des efforts et énergie à la consolidation de la PRD Congo à toutes les dimension sociale et économique. Sylvain Mingolo dit ceci: nous félicitons nos parlementaires pour avoir voté la loi sur la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme, qui a été d'ailleurs déjà promulguée. Nous les félicitons pour tout cela. Ça va nous aider à avancer petit à petit sur le terrain de l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Blanchi Lopaka, qui nous écrit des Kananga, il dit ceci: il ne suffit pas seulement de promulguer la loi sur la Commission nationale des droits de l'homme, mais il faut qu'on voie son efficacité, mais l'effectivité, bien qu'elle est promulguée, et ça pose problème parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où en est-on avec la création ou la mise en place de cette commission. Thierry Nkoki, il nous faut un nouveau concept d'opération d'identification des éléments de militaires, des policiers, comme ça, ça va nous permettre de pouvoir contrôler leurs actes quand ils sont sur terrain et les poursuivre. enfin Blanchard Kayembe qui est ici à Kinshasa. Il faut que le ministère de la Justice soutienne aussi la commission d'arriver à mettre ensemble un cadre qui permette la collaboration entre les pouvoirs publics et les défenseurs de droits de l'homme. Bien avant d'écouter rapidement les auditeurs Scott Campbell, où en est-on avec la mise en place de cette commission? Parce que les auditeurs posent la question de savoir depuis que la loi a été promulguée, où en est-on aujourd'hui? Si au niveau du bureau, vous avez des informations?
Non, tout à fait. C'est au niveau de Parlement où l'action doit être prise, tout simplement. Et ce sera très important, comme l'auditeur ou celui qui a fait la contribution au Facebook le souligne. Les lois, la réforme législative, c'est très important, c'est bel et beau, mais c'est la mise en œuvre de ces lois qui compte, qui vaut la peine. Et donc, pour le cas de la mise en œuvre de la Commission nationale des droits de l'homme, il est clair, c'est devant le Parlement et c'est au Parlement qui doit maintenant procéder à la nomination des membres.
Voilà, Clément, vous êtes en Bougimaï, Maître Machaka Lumbashi et Mathieu Akananga, 081-890-49-69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Clément, vous êtes avec nous, bonjour.
L'invité, bonjour aux fidèles de la Radio Capi.
Mais Clément, si vous pouvez permettre qu'on accorde la parole à Maître Machaka, parce qu'il était là avec Michel au même moment, le temps qu'on puisse le libérer, on va revenir à vous. Restez en stand-by, Clément. Nous allons d'abord à Lubumbashi rapidement. Maître Machaka, vous êtes avec nous? Maître Machaka, vous êtes avec nous? Bah, dommage qu'on a perdu Maître Machaka à la ligne. Peut-être s'est détérioré comme il est resté longtemps sur les antennes. Alors, on pourra voir comment le recontacter à partir de Lubumbashi. Nous allons en Bougimaï. Clément, bonjour.
Bonjour, Pierrot. Je voudrais aller un peu tout droit vis-à-vis de cette commission qui est beaucoup plus flatteuse vis-à-vis du gouvernement en publiant plus de 3 rapports sans résultat favorable. Je voudrais aller avec une illustration palpable concernant les droits de l'homme. Il n'y a pas 3 ans que les conflits en Syrie ont commencé et ont donné des résultats fâcheux vis-à-vis de grandes puissances. Et ces grandes puissances ont tapé sur la table pour intervenir et frapper Bachar al-Assad. Pourquoi? Parce qu'il a violé le droit de l'homme. Mais comment se fait-il qu'ici au Congo, un Congo qui fait partie des Nations Unies, un Congo qui a ratifié la charte des Nations Unies, il y a maintenant plus d'une décennie où elle est en train de subir les violences de l'extérieur, la population en train de subir les violations de droits de l'homme, les grandes puissances qui ont le droit de veto aux Nations Unies n'interviennent pas et font semblant à ce que les Congolais ont comme difficulté. Je voudrais aller avec une illustration, une deuxième. Nous avons la MONUSCO ici à Mbujimaï. La prison de Mbujimaï a été construite pour 150 prisonniers. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà de 800 prisonniers dans des locaux qui étaient prévus pour 150. Quelles sont les conditions que ces prisonniers sont en train de passer? Est-ce les droits des prisonniers est préservé ou les droits des prisonniers est en train de s'améliorer ou de se détériorer? Donc, je ne voudrais pas que cette commission-là puisse nous donner des flatteries sur la guerre, sur ce qui se passe, mais qu'ils voient en concret qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Et en plus, ce rapport doit être déposé auprès de qui ne connaît pas la situation au Congo. Même aux Nations Unies, on connaît la situation que connaît la RDC aujourd'hui, parce que la MONUSCO est dans tous les coins possibles de la RDC. C'est-à-dire que le rapport parvient directement aux autorités de la MONUSCO et de l'ONU. Et si aujourd'hui, eux se mettent à publier un rapport, donc c'est un rapport sans objet et qui n'aura aucun effet vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis de la population elle-même qui est en train de souffrir. Voilà un peu ma petite contribution, Monsieur Clément.
Voilà, merci Clément. Je retiens d'abord de votre intervention. Vous dites que l'engagement de la communauté internationale en RDC, vous ne sentez pas un engagement fort, des décisions fortes pour faire face à la situation, mettre fin à cette situation de violence qui amène à la violation des droits de l'homme. C'est votre inquiétude. Vous ne voyez pas un engagement très fort comme ça s'est fait pour d'autres pays, mais vous pensez qu'on ne peut pas avoir un rapport parce qu'il y a les Nations Unies qui sont déployées au pays, ils connaissent bien la situation, alors c'est pas important qu'on puisse rédiger un rapport alors que la MONUSCO est déployée presque partout. Mais pour vous, le problème c'est de savoir quelles sont les actions concrètes qui doivent être être prises au niveau de la communauté internationale, au niveau du gouvernement, pour qu'on mette fin à la situation. C'est ça ce qui est votre souci. Merci beaucoup, Clément Mathieu. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Perrault. Bonjour, monsieur l'auditeur.
On vous écoute, Mathieu.
À partir de Kananga.
On vous écoute.
Je retourne à la parole qu'avait prononcée Albert Einstein, qui disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. » La phrase résonne comme une prophétie, ayant trouvé sa réalisation d'un peuple, d'un pays qu'on appelle la République démocratique du Congo. Parler du mot « droit de l'homme » dans ce pays, c'est une insulte à Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout être humain, à l'occurrence, l'homme qui vit à chaque jour, qui passe au rythme de la terreur, sans la paix du cœur, c'est-à-dire pris en otage par les intouchables. D'ailleurs, comment peut-on parler d'un état de droit dans un pays où il n'y a pas de respect des vies humaines? Une culture basée sur les graves violations des droits de l'homme, premier pays du monde en matière de viol. La justice qui passe son plein, la dictature en haut rang, les enlèvements, les harcèlements, toutes ces violations plusieurs d'entre elles sont commises par les soi-disant services de sécurité, où plusieurs d'entre elles, leurs agents, sont les anciens de la garde civile, mon pape haute de la Deuxième République, qui ont pris l'assaut du destin de tous ces services sans être déstructurés, respirer jusqu'à ce moment même. D'après moi, il faut commencer par la déballage, changer l'ancien système de sécurité à travers tous les pays. On disséminer une journée de réflexion collègue haute. Sinon, la situation va se dégrader jusqu'au bout. C'est ça ma réflexion. Merci, M. Perrault.
Merci beaucoup, Mathieu. Format, c'est important. Hein. Vous avez dit qu'on parlait des droits de l'homme, c'est insulter les créatures. Mais je retiens, dans votre intervention, une proposition qui est importante, c'est la restructuration des services de sécurité. Pour vous, vous pensez qu'on ne peut pas arriver à l'amélioration de la situation quand les services de sécurité ont l'état de la Deuxième République. Vous souhaitez qu'il y ait une restructuration de services de sécurité. Et je crois même que c'est proposé au niveau du bureau, qu'il faut l'association des services de sécurité pour arriver à respecter les droits de l'homme. Merci beaucoup, Mathieu. Dieudonné, vous êtes à Lubumbashi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi, nous dégageons ensemble les pistes et des solutions pour arriver à l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Votre point de vue?
Bon, moi je reviens toujours sur le droit de l'homme. Je me demande vraiment s'il y a le droit de l'homme. Parce qu'en fait, moi je suis conducteur. Quand vous voyez les taxes qui sont infligées aux conducteurs, donc acheter un véhicule ici à Lubumbashi, c'est devenu un calvaire. Les taxes sont extrêmement exagérées. Et quand on vous demande de les payer, dès que vous dépassez les délais, on vous met des barrages en cours de route, monsieur le journaliste, et avec qui ont des points, des barres métalliques avec des pistes. Si vous osez traverser ces barres là-bas, vous creusez vous-même les pneus. Donc c'est comme si on est en train de vous tenir par le cou pour vous étrangler afin de vous forcer de payer absolument les taxes. Mais si les taxes étaient intéressantes, avaient un prix raisonnable, la population allait bien payer, allait acheter sans problème. Nous, la population ici, nous sommes, tout le monde le sait, le Congolais vit en deçà de 2 dollars par jour. Mais quand vous voyez les taxes qu'on instaure, même le maire de la ville de Lubumbashi est entré dans le jeu aussi, dans la danse. Lui, il a instauré la taxe de stationnement. Quand vous voyez combien ça coûte, c'est toujours les yeux de la tête, monsieur le journaliste. Je me demande vraiment si on respecte le minimum du droit de l'homme ici à Lubumbashi. Donc c'est vraiment ça que je voulais un peu insister. Si on peut comprendre aussi que non, la population est vraiment, les sous-petits payés, qu'on puisse instaurer des taxes raisonnables, puis allant jusqu'au 20 000 par exemple, les gens vont payer à l'aise ces taxes là-bas.
Merci, même, merci beaucoup.
Allez poser la question présentement, là, c'est le
Merci beaucoup, Dieudonné. Pour vous, les droits, c'est difficile. Avec la multiplicité des taxes, hein, il va être difficile pour que le gens puisse vivre. C'est un droit de pouvoir être libre et vivre comme il faut. Mais votre souci, c'est de voir hein, si ces taxes peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Vous êtes à Lubumbashi. Mais aussi, si l'État peut alléger les taxes et permettre aux personnes d'avoir le droit de travailler, d'exercer leurs activités. Christian, vous êtes à Tunis, en Tunisie. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. En une minute, parce que là, on est bousculé par le temps. Christian, votre intervention.
En fait, moi, je devais intervenir parce que depuis que je suis en train de vous entendre, vous parlez plus sur les plans et les plans sécuritaires des problèmes qui se passent à l'est de la République. En fait, moi, je suis en Tunisie. Vous savez, en Tunisie, il n'y a rien comme ressource. Donc, ils vivent de l'économie. Mais, j'ai fait maintenant pratiquement, je crois, 4 ans, de la manière dont je vois d'abord la population. Parce qu'il y a un gouvernement qui cherche à ce que la population puisse bien d'abord vivre. Vous comprenez? Vivre comment? Du genre, d'abord, nourriture. Donc, la population, l'État subventionne les fois la nourriture. Que la population mange. Mais ce que moi, je suis en train de voir dans mon pays, il ne faudrait pas que le gouvernement puisse nous distraire. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils nous distraient ce qui se passe à l'Est. Si le gouvernement laissait la population manger, qui soit en bonne santé, qui puisse pas, c'est alors qu'on peut maintenant s'attaquer sur ce qui se passe maintenant dans le gouvernement. Parce que moi, le fait que moi je fais, le fait que moi je devais intervenir pour des citoyens, que la population puisse savoir que ce qui se passe dans mon pays, le gouvernement le fait. Voilà. Moi je vais demander, le fait que vous pouvez faire aussi, c'est de plaider pour la population, parce qu'on doit laisser la population bien manger d'abord.
Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, merci Christian. Les inégalités sociales amènent des frustrations qui conduisent, on l'a déjà dit, en évoquant cela avec Sylvain Debougne, mais aussi Madame Joséphine qui nous a appelé des États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup. Nous terminons avec vous, Freddy. Vous êtes à Kinshasa. En une minute, parce qu'il faudrait conclure cette émission, Freddy, votre point de vue.
Merci beaucoup. Je suis aussi activiste des droits de l'homme et formateur aussi. Moi, ma contribution n'est rien autre que d'informer aussi à la population que les problèmes des droits de l'homme, ce n'est pas les cas que nous allons laisser tout simplement que le gouvernement s'en occupe de cela. Mais nous aussi, comme population, nous devons aussi savoir à nos droits et savoir aussi les réclamer. Si nous ne savons pas les réclamer, ça nous pose trop de problèmes. La problématique ne se pose pas parce qu'on a promulgué une loi pour la création des commissions des droits de l'homme. Mais non, mais nous devons aussi savoir à nos droits, savoir à nous défendre. C'est ça la problématique. Est-ce que nous allons laisser tout au gouvernement afin que le gouvernement puisse faire tout pour nous? Nous devons aussi le savoir. Dès que nous allons connaître nos droits, nous aurons la possibilité de défendre dès qu'on marche à la contre de nos droits. C'est ce qui a été comme à la base de ma contribution.
Voilà, merci beaucoup Freddy. Au-delà du fait qu'on doit demander au gouvernement de les faire, mais vous avez aussi sensibilisé la population à connaître ses droits, à les revendiquer, à les défendre. Nous allons terminer avec Justin Ngarikuraki qui nous a écrit des bouts de mots et dit ceci, fait cette façon d'agir de nos parlementaires est encourageante. C'est par rapport à la loi sur la mise en la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons Kevin qui nous écrit de Johannesburg qui dit ceci. Ils sont énormes et assez consistants, les efforts. À mon avis, je proposerai une accentuation des différentes mesures qui sont prises au niveau du pouvoir public pour arriver à lutter efficacement contre l'impunité. Cela va améliorer la situation des droits de l'homme. Jean-Marc Ngoï dit ceci, pour améliorer, il faut d'abord qu'il y ait la conscience patriotique, il faut que les gens aient le nationalisme et qu'il y ait aussi la volonté politique. Voilà ce qu'il a ajouté, il faut aussi la volonté politique pour y arriver. Serge Mibenge-Berton dit que la justice doit jouer son rôle, surtout en matière de violences sexuelles. Andy Anderson Kambale dit ceci, pour lui, il pense que ça sera injuste de mettre tout sur le dos du gouvernement. Il faut aussi voir au niveau de la population quelle est la responsabilité de chacun dans la violation des droits de l'homme. Et enfin, Héritier Mukosa dit ceci, pourquoi toutes les violations doivent être toujours sur les gouvernements, mais il y a aussi les pays limitrophes qui sont à la base de la détérioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. On revient à vous, Scott Campbell. On a suivi les uns et les autres. On est revenu presque sur les mêmes propositions.
Exactement.
On est d'accord qu'il faut arriver à améliorer les droits fondamentaux de la population sans aussi oublier la situation des droits qui touchent à la sécurité et les restes. Et en tout, au niveau de Nations Unies, en quelques mots, qu'est-ce qui doit être fait maintenant, dans quel axe précisément, pour qu'on puisse continuer sur les efforts qui ont été déjà entrepris en deux minutes pour terminer.
En deux minutes, non, je veux revenir aussi sur le point sur il y a un apparent, une contradiction apparente. Lorsque le commissaire Timmermans satisfait de certains progrès, certains efforts qui sont faits,
et en même temps, oui,
elle est claire en disant que la situation s'est dégradée à l'est du pays et elle demeure très préoccupée par une situation qu'elle qualifie de grave dans le pays. Mais bref, je pense qu'il est injuste aussi quelque part de ne pas reconnaître les efforts qui sont en train d'être faits, le progrès achevé et l'approche du gouvernement actuel, parce que c'est ça qui finalement va changer la situation. Il faut noter que les différentes lois qui sont passées depuis 2011 sur la FARDC, sur la police, sur le système judiciaire aussi, nous donnent un cadre pour que les changements aient lieu. Maintenant, c'est une question, comme était souligné, de les mettre en pratique. Donc, la mise en pratique des différentes lois, et surtout, comme le chef de l'État vient de le dire à New York, la lutte contre l'impunité, elle est clé pour résoudre tous les problèmes du pays et dans la région des Grands Lacs.
Merci beaucoup, M. Scott Campbell, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes les directeurs du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ici en RDC. Nous disons merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux à suivre cette émission. Merci à tous.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
On se retrouve demain vendredi pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année et c'est depuis 1980 avec pour objectif principal la prise de conscience de l'importance du tourisme du point de vue social, culturel, économique et même politique. En marge de cette journée, Paroles aux auditeurs fait le point sur l'évolution du secteur touristique en RDC où il connaît beaucoup de difficultés, notamment les manques d'investissement, les déficits des promotions et la baisse des fréquentations liées à la sécurité grandissante dans les zones de l'Est. Que proposez-vous pour développer les secteurs touristiques en RDC? On se retrouve demain à 10h, à 11h, 3 minutes, heure de Kinshasa. Merci à tous, au revoir.